Bonjour, vous êtes sur Radio B 90.0, les bonnes ondes, dans l'émission Musique au pluriel, présentée par Bruno Point et Paul Turchet. Notre précédente émission était consacrée au compositeur français César Franck, et à cette occasion, nous avons écouté les extraits de sa musique orchestrale, de sa musique de chambre. Nous avons décidé de lui consacrer une seconde émission, consacrée cette fois, je dirais, à ce qu'on pourrait appeler sa descendance intellectuelle, tellement elle est riche, son école quelque part, et entre autres, de nous consacrer à son œuvre pour orgue. En tant que professeur, il était surnommé le Pater Seraphicus, le musicien séraphique. César Franck a eu de très nombreux élèves, une cinquantaine. Nous avions dans la précédente émission écouté des extraits de l'œuvre d'Ernest Chausson et de Duparc qui furent ses élèves. Et nous reprenons un petit peu cette chronologie. En 1848, alors qu'il est déjà un grand pianiste, que Cherubini lui-même lui remet un prix d'honneur, de premier prix, même prix d'honneur de piano, en considérant que ce jeune musicien est quelque part hors classe. Il a donc 16 ans, son père veut l'entraîner et l'entraîne en partie dans une carrière de grand pianiste. Sans doute son père pense à Beethoven, à Liszt, à d'autres grands musiciens qui furent de très grands pianistes. Et en 1845, César Franck décide quelque part de rompre avec son père. Il compose un poème symphonique, il commence à composer, puis il devient un des plus grands organistes. Il est organiste à l'église de Saint-Jean-du-Marais, puis à l'église Sainte-Clotilde jusqu'à sa mort. Donc une cinquantaine d'élèves. Nous allons écouter aujourd'hui, entre autres, des extraits de l'œuvre de ses élèves Louis Vierne, Gabriel Pernet, et expliquer que l'influence de Franck a été considérable dans la seconde moitié du 19e siècle et début du 20e. Il a été l'initiateur, le fondateur d'un renouveau de l'école d'orgue qui était déjà prestigieuse, l'école d'orgue française, et va l'enrichir en la fondant notamment sur l'improvisation. Et va réinventer véritablement l'art du choral. Nous allons écouter à Panis Angelicus, le pain des anges devient le pain des hommes, dit la liturgie, de César Franck.
nous venons d'écouter une œuvre profondément religieuse. Nous l'avons dit, César Franck était croyant et le lien avec l'orgue est évident puisque l'orgue est présent à cette époque essentiellement et je dirais même uniquement dans les églises. Toutefois, Franck est aussi, et d'abord, je dirais pour nous et pour cette émission, un grand musicien. Il est intervenu à un moment dans l'histoire de l'orgue où il y a eu un grand renouveau. Nous avions eu en France d'éminents musiciens au XVIIe et au XVIIIe siècle, François Couperin, Nicolas de Grigny, Louis d'Aquin, Michel Corrette, qui ont écrit un répertoire important pour l'orgue. Il y a eu après, au moment de la Révolution, l'expression d'un anticléricalisme et l'abandon des orgues. Il y avait encore des organistes, mais une violente dispute entre les révolutionnaires et les pratiquants. Et finalement, on va retrouver cet antagonisme tout au long du XIXe siècle, avec néanmoins un sursaut, l'arrivée d'un très grand facteur d'orgue, Cavaillé-Coll, qui va profondément bouleverser les orgues, notamment celles de Paris, mais partout dans le monde, en tout cas partout en France. Je rappellerai le chiffre significatif qu'il y a aujourd'hui 262 orgues à Paris. C'est donc une des villes au monde où il y a le plus d'orgues. C'est impressionnant, vous regardez sur Internet la liste par arrondissement, il y a des arrondissements où il y a plus de 10 orgues. De toute façon, il y a 20 arrondissements à Paris, donc 262, ça fait plus que 10 par arrondissement en moyenne. Et il n'y a pas que Paris, il y a de très grandes orgues où est intervenu aussi Cavaillé-Coll partout en France. Donc il y a eu un renouveau lié à l'apparition notamment de César Franck qui a imprimé lorsqu'il est devenu professeur d'orgue au conservatoire une nouvelle manière de composer, une nouvelle manière de traiter l'orgue en lien avec le nouvel instrument qui arrivait. Et puis, quelque part, l'affranchissement de la musique religieuse, c'est-à-dire qu'on a écrit pour l'orgue des musiques qui ne sont pas uniquement religieuses, mais qui sont des musiques tout court. À tel point que, par exemple, à la même époque, nous l'avons dit dans une précédente émission, Camille Saint-Saëns va écrire une symphonie pour orchestre avec la présence d'un orgue. Il fallait pour cela qu'il y ait un orgue dans une salle de concert, ce qui veut dire que l'orgue n'est plus le privilège de l'Église, il peut en sortir. Et ça sera tout le débat d'ailleurs de la fin du 19e et du 20e aujourd'hui, d'avoir des orgues qui ne soient pas uniquement à vocation religieuse. On a des orgues aujourd'hui à l'Auditorium de Lyon, par exemple, qui n'est pas un lieu religieux. Et donc il y a des concerts d'orgues avec de très belles orgues à l'Auditorium. Première illustration, c'est une composition de César Franck qui marque bien cette dualité. C'est un prélude, fugue et variation. Nous allons écouter le final, les variations. On est là dans un schéma qui fait penser à Bach, donc qui nous ramène à la musique vraiment classique, voire religieuse. Mais néanmoins, ce sont des variations et c'est un prélude et fugue. C'est une œuvre technique pour l'orgue, une œuvre de composition pure, où le sentiment religieux n'apparaît pas. Ça n'est pas le fond de l'expression. Le fond de l'expression, c'est la musique. Écoutons cette œuvre qui, d'ailleurs, a été écrite pour l'orgue, mais est présente aussi dans le catalogue des compositions pour piano. Elle se joue fort bien au piano. Écoutons donc le dernier mouvement, variation, qui reprend le thème principal du prélude et en fait des variations.
Parmi les nombreux élèves et disciples de César Franck, il faut nous intéresser à Louis Vierne, né en 1870 et mort en 1937, qui restera titulaire du grand orgue de la cathédrale Notre-Dame pendant 37 ans, jusqu'à sa mort. C'est une figure incontournable de l'école d'orgue française et il a mené une grande carrière d'interprète partout en Europe. Il est même allé aux États-Unis, il a donné plus de 60 concerts et a été formé à l'Institut national des jeunes aveugles, car il ne distingue pas les objets et les visages, mais seulement des formes devant lui. À 16 ans, il rencontre César Franck, qui va lui remettre un prix de violon et de piano. Et Vierne est tellement impressionné par César Franck qu'il écrira que le cœur lui sautait dans la poitrine et ses oreilles bourdonnaient. « J'étais livide, écrit-il. Je montais les marches de la petite estrade du jury et me trouvais devant un homme grand, un peu voûté, favori argenté, revêtu d'une redingote noire. » Et c'est César Franck qui va inviter Louis Vierne à travailler avec lui et à le rejoindre dans sa classe au conservatoire. César Franck va, Louis Vierne, pardon, va décéder tragiquement. J'allais dire, on écrira qu'il a eu une mort tragique et merveilleuse, car il va s'affaisser à l'occasion d'un concert qui est donné par les autorités de la cathédrale avec Maurice Duruflet. Eh bien, il exécute les trois parties de son triptyque, et puis au moment de débuter l'improvisation, il s'affaisse sur le pédalier de l'orgue et il décède brutalement. Nous allons écouter parmi les trois un extrait des trois improvisations pour orgue qu'il a composées en 1928, retranscrites par Maurice Duruflet, une improvisation donc retranscrite en 1929.
Comme l'a dit Paul, cette œuvre que nous venons d'écouter est une improvisation. Elle est, on pourrait imaginer que puisqu'elle est improvisée, elle a disparu du catalogue. En l'occurrence, c'est une chance extraordinaire. Je vous invite à aller regarder sur YouTube. Il y a les enregistrements de Vierne. C'est lui-même qui a été enregistré. La qualité est médiocre, donc nous ne l'avons pas choisi pour cette émission. Mais néanmoins, il a été enregistré lorsqu'il a, j'allais dire écrire, il n'a surtout pas écrit, lorsqu'il a improvisé ces trois pièces pour orgue. Et c'est donc un très grand organiste, ainsi que l'a rappelé Paul, Maurice Duruflet, qui a, à l'écoute de Vierne, écrit les improvisations de Vierne, qui en l'occurrence peuvent être jouées et sont jouées par tous les organistes au monde aujourd'hui. Cela nous amène à confirmer, nous l'avions déjà dit dans de précédentes émissions, le mélange de sciences extraordinaires, de connaissances qu'avaient les organistes, qui, je le rappelle, passaient par une formation absolument complète en composition, orgue, piano, contrepoint, fugue, improvisation, tous les organistes, les grands organistes ont tous les premiers prix de conservatoire de toutes ces disciplines. Ce sont véritablement des savants. Mais au-delà du savant, il y a aussi l'inventivité. On a là une inventivité dans le fil de l'œuvre que nous venons d'écouter qui est merveilleuse. Autre grand organiste de cette époque, Charles-Marie Vidor, qui va succéder à César Franck au conservatoire et qui va donc prendre la place de professeur, où il va avoir des élèves aussi prestigieux, quelquefois croisés d'ailleurs avec César Franck. Il aura Louis Vierne, Tournemire, après César Franck. Il aura Marcel Dupré, nous en parlerons plus tard. Albert Schweitzer, tout le monde connaît le nom d'Albert Schweitzer, qui a participé à des œuvres humanitaires, mais c'était aussi un fin organiste. Et puis des musiciens plus proches de nous, tels que Arthur Honegger, tels que Varèse, tels que Darius Milhaud, ont été les élèves de Vidor. Vidor a surtout, à mes yeux, marqué par vraiment la formation qu'il a inculquée, qu'il a développée auprès de toute une génération de musiciens, je dirais plus que par ses œuvres qui sont quelquefois à mes yeux un peu emphatiques, mais qui sont néanmoins des monuments de l'orgue. Il a notamment écrit 10 symphonies pour orgue. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons écouter avec une de ses œuvres les plus célèbres, le final de la 5e symphonie. Juste pour dire que Vidor aura donné des centaines de concerts. Il a quitté ses orgues à 90 ans, ainsi que son poste au conservatoire. C'est dire la vitalité de cet homme. Écoutons la toccata.
sa vie maintenant, César Franck a fondé une véritable école, un renouveau de l'école française d'orgue, avec cette conjonction merveilleuse du renouveau déjà de la facture d'orgue, Bruno l'a dit, avec le grand facteur d'orgue Aristide Cavaille-École. Et tout cela va redonner un prestige à la musique et à l'orgue français. Les pionniers de ce renouveau, nous les connaissons, ou en tout cas en partie, Louise Hierne, Marcel Dupré, Charles Tournemire, qui vont être suivis par Jehan Alain, Olivier Messiaen, qui va beaucoup composer pour orgue, Jean Langlais, Maurice Duruflé, Gaston Litaize et bien d'autres. Leurs styles divers et variés seront d'ailleurs qualifiés de post-romantiques ou de néoclassiques ou d'impressionnistes, peu importe l'appellation, ce qui compte c'est de concevoir cette énorme palette musicale. Plus récemment, puisqu'il y a le fondateur, il y a la première dynastie et puis il y a aussi les descendants de cette école d'orgue française qui sont prestigieux. Tout le monde connaît Pierre Cochereau, qui devint titulaire de l'orgue de Notre-Dame de Paris. Marie-Claire Alain, André Isouard, Michel Chapuis, Daniel Roth, Pierre Pincemaille, Thierry Escache, Olivier Latrie, Éric Lebrun, tous qui ont laissé une discographie et ça continue tout à fait abondante et formidable de toute l'œuvre de Bach, notamment et de tous les auteurs anciens qui ont composé pour l'orgue. Nous allons écouter maintenant un prélude opus 29 numéro 1 de Gabriel Pierné, un autre élève bien sûr de César Franck.
maintenant d'écouter une œuvre profane, si l'on est pas de religion dans cette musique. C'est un prélude, c'est une œuvre presque virtuose. Gabriel Pierné était un fin musicien et sachant que nombre de musiciens étaient organistes et nous ne le soupçonnons pas. Par exemple, Gounod, compositeur connu pour ses opéras, avait une formation d'organiste. Saint-Saëns, bien sûr. Fauré, qui est surtout connu pour ses œuvres pour piano, pour musique de chambre, j'en oublie, mais nous ferons certainement une émission sur lui. Eh bien, Fauré était organiste. Messager, qui était un des plus grands chefs d'orchestre de son époque, c'est lui qui a créé Péléas et Mélisande de Debussy et qui a écrit essentiellement des œuvres, je dirais légères, presque des opérettes, des merveilles d'ailleurs. Eh bien, Messager était organiste avec une formation d'organiste. Vincent d'Indy aussi. Voilà pour dire que l'orgue était au centre de la formation de nombre de musiciens qui étaient titulaires d'orgue et l'histoire ne l'a pas oublié mais ne le met pas en valeur aujourd'hui. Éminente personnalité s'il en est qui est au carrefour du 19e et du 20e siècle et qui a dominé l'orgue pendant près de 50 ans en France, c'est un élève de Charles-Marie Vidor, en l'occurrence Marcel Dupré, qui était titulaire à la suite de Charles-Marie Vidor des orgues de Saint-Sulpice à Paris et qui a laissé une empreinte considérable, quelquefois contestée, mais ça, le milieu de l'orgue n'échappe pas aux chapelles, c'est le cas de le dire. Mais il aura formé des gens qui ne lui ressemblent peu, tels que Marie-Claire Alain, tels que Michel Chapuis, tels que Pierre Cochereau, tels que Gaston Litaize, organisent tous fort différents, ce qui prouve que Dupré était une grande figure musicale, un grand professeur. Nous allons écouter une de ses œuvres pour orgue, qui est une merveille, la Symphonie Passion de Marcel Dupré.
Nous allons refermer bientôt cette seconde émission consacrée à César Franck, qui, né en Belgique, rappelons-le, va devenir citoyen français pour professer au Conservatoire de Paris. Immense pédagogue dont le portrait psychologique est particulièrement touchant. Ses élèves l'adorent, il est adulé, on l'appelle le pater seraphicus, Tournemire l'appelle le musicien séraphique, Vierne l'appelle l'apôtre, Vincent d'Indy l'appelle la figure séraphique, et Tournemire, qui va écrire une biographie d'ailleurs de César Franck, va écrire de lui: le mal était inconnu de lui. S'il vivait pour l'art transcendant, il savait néanmoins se pencher sur ceux qui venaient à lui. Il possédait à un degré éminent l'intelligence du cœur. Voilà cette phrase magnifique. Écoutons maintenant une prière cantabile, donc composée par César Franck.
Tours, et à la suite de César Franck, nous avons essayé d'exposer un panorama de la variété de la musique pour orgue avec les œuvres sereines de César Franck, le prélude, fugue et variation, cette prière chantante, prière cantabile de César Franck, la virtuosité de Gabriel Pierné dans son prélude, et puis la fureur et la fougue des symphonies quasi gigantesques de Vidor et de Marcel Dupré. Nous allons maintenant terminer, comme nous avions commencé, par une œuvre religieuse de César Franck, le prologue des Béatitudes.
Oh,
Nous avons écouté au cours de cette émission de César Franck le Panis Angelicus par les chœurs du King's College, les variations du prélude fugue et variations à l'orgue par Vincent Dubois, la deuxième improvisation dite méditation de Louis Vierne retranscrite par Maurice Duruflé et jouée par John Challenger à Salisbury. Ensuite, de Vidor, le final de la toccata de la 5e symphonie par Olivier Latry. Olivier Latry, toujours dans le fantastique prélude opus 29 de Gabriel Pierné. Puis Dupré, par lui-même, puisqu'il était organiste et jouait ses œuvres dans la symphonie Passion. Ensuite, la prière cantabile de César Franck par Vincent Dubois. Et nous avons terminé par, en geste d'apaisement, par les béatitudes, le prologue En ce temps-là de César Franck par l'orchestre philharmonique et les chœurs de Radio France dirigés par Armin Jordan. Prochaine émission, nous la consacrerons à d'éminents compositeurs de musique de film, dont Georges Delerue et d'autres. D'ici là, nous vous souhaitons un bon printemps qui s'annonce, malgré tous ces événements qui nous minent tous et qui nous inquiètent beaucoup. Mais profitons du soleil et écoutons de la musique. À très bientôt.
Au revoir.